dossier du jour avec Granit et Marbre Mourier, plan de cuisine et salle de bain. Fabricant depuis 1860, exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr.
Bonjour à toutes et à tous. La fermeture du centre d'enfouissement de Nau, c'est bien réel depuis la fin de l'année dernière. Pourquoi? Où partent maintenant les déchets? Quelles sont les solutions de traitement actuelles? Que devient le site? Toutes ces questions trouveront leurs réponses avec les représentants d'Evolis 23. Pour échanger en direct avec vous, Denis Mosset, responsable transport, tri et traitement, Olivia Chatonnet pour le service communication d'Evolis 23. Et vos interventions, comme chaque jour, à ce numéro.
05 55 52 37 38.
Olivia Chatonnet, Denis Mosset, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue
bonjour
à tous les deux. Olivia, nous allons commencer par une gentille piqûre de rappel concernant Evolis 23. C'est combien de communes adhérentes? Une centaine?
Près d'une centaine, oui.
Avec quelle mission principalement pour Evolis?
Evolis 23 est un syndicat mixte qui regroupe donc près d'une centaine de communes du nord-ouest de la Creuse, qui lui délègue le traitement de la gestion des déchets, mais également de la voirie et de l'eau et de l'assainissement.
Denis Mosset, responsable transport, tri et traitement, votre fonction précisément?
Écoutez, j'ai la responsabilité notamment de l'exploitation du centre de tri qui est basé à Nau. Donc, c'est à environ 5000 tonnes par an de recyclables collectés sur notre territoire. Également, à l'époque, l'exploitation du centre d'enfouissement, l'installation de stockage dont on va parler aujourd'hui, donc qui s'est arrêtée en fin octobre 2018. Et désormais, là, je m'occupe de sa réhabilitation et de son suivi post-exploitation. Voilà. Mais désormais, comme le site vient de s'arrêter, j'ai la responsabilité également du transfert des déchets de notre territoire vers des unités de traitement extérieures.
Alors un centre qui avait été ouvert en 1997, je crois, c'est ça?
C'est ça, exactement, 97, oui.
Qu'est-ce qui a motivé sa fermeture?
Alors la motivation, en fait, c'est purement un arrêté préfectoral initialement. L'arrêté date de fin 95, et comme tous les arrêtés préfectoraux, cet arrêté est pris pour dicter le mode d'exploitation, le mode de création de travaux qui doit avoir lieu pour cette installation de stockage, mais aussi fige la durée d'activité. Donc en l'occurrence, c'était un arrêt d'exploitation au 1er novembre 2018. Il s'avère que sur notre site, on avait encore une capacité pour pouvoir continuer cette exploitation, mais il y a une décision politique qui a été prise. On regarde des échanges qu'il y a pu y avoir auprès des associations et des élus riverains du site, de ne pas faire une demande d'extension d'activité sur ce site et de se conformer à la limite initiale de l'arrêté, à savoir d'arrêter l'exploitation en 2018.
Ce site, pour quel type de déchets?
Alors, c'est ce qu'on appelle des déchets non dangereux. Ce sont des déchets des ordures ménagères, principalement, et également des encombrants de déchetterie. Donc, ce sont des déchets que tous les foyers génèrent à leur échelle. Voilà.
Donc, je suppose qu'il a fallu tout réorganiser?
Ouais, tout à fait. Donc, cette première organisation, comme je l'évoquais, c'était de créer un centre de transfert, parce qu'effectivement, nos déchets sont toujours collectés, même s'ils ne sont pu traiter. Alors, il faut savoir qu'initialement, le gisement, ce qui est toujours le cas, le gisement d'Evolis, c'est environ 16 500 tonnes de ces déchets par an. Le site de Nau n'en prenait en stockage que 11 000 tonnes par an, donc ce qui nécessitait déjà un export de 4 000 tonnes par an qui partait sur un site de l'Indre qui était géré par une entreprise privée, bien connu nationalement. Donc c'est déjà quelque chose qui existait à l'échelle de nos territoires. On exportait nos déchets pour traitement vers un département limitrophe. Et désormais, c'est l'ensemble de nos déchets qui vont être transférés vers des installations de traitement extérieures et qui va nécessiter donc la création d'un centre, ce qu'on appelle un quai de transfert, qui est en voie de finalisation actuellement et qui va permettre aux bennes d'ordures ménagères et à nos bennes d'encombrants de vider ces déchets dans des grands semis de transfert qui font 90 mètres cubes pour limiter justement le transfert par route de petits contenants tels que les bennes à ordures ou des conteneurs.
Des déchets qui vont également partir vers l'Indre ou d'autres destinations?
Alors, il y a deux destinations, toujours l'Indre, donc principalement, voire exclusivement pour les ordures ménagères. Et un site qui est basé à Peyrat-Bellac, qui est géré par une collectivité cette fois-ci, donc en Haute-Vienne, pour nos encombrants de déchetterie, qui ne comprennent pas de fermentés cibles en l'occurrence, qui était une des conditions d'acceptation de ces déchets sur le centre d'enfouissement, sur l'installation de stockage de Peyrat-Bellac.
Ce n'est pas plus cher d'envoyer ailleurs ?
Alors, il y a le coût de transport, bien sûr. Donc, là, on parle de coût. Alors, on va parler du coût de traitement dans un premier temps. Il s'avère qu'effectivement, sur le centre de l'Indre, on a un coût de traitement. Excusez-moi.
Ça, c'est l'effet studio. Vous
voilà, de 65 euros par tonne. Et celui de Peyrade-Bellac, on est aux alentours de 59 euros par tonne. Alors là, je parle d'euros sans taxes. Il faut savoir que l'État perçoit par le biais des douanes un coût à la tonne de taxes qui s'appelle la TGAP. Et donc, qui petit à petit, d'ailleurs, l'État souhaite augmenter ce taux de façon à avoir un levier fort pour la limitation des déchets. Donc, il a choisi ces taxes, en l'occurrence. Mais il faut savoir qu'à terme, le coût de la taxe va approximativement être équivalent au coût de traitement. Donc, on va avoir, par rapport au coût de traitement, un coût global x2 de traitement de par l'institution de cette taxe qu'on appelle TGAP.
Avec un retentit, je suppose, sur les citoyens.
Forcément.
À vos calculettes, à vos téléphones, 05 55 52 37 38, la fermeture de ce centre d'enfouissement de Nau, est-ce que ça vous semble plutôt raisonnable? Ou alors non, vous n'êtes pas du tout d'accord? Vos questions, vos commentaires, c'est possible dès maintenant, 05 55 52 37 38.
Quand tu traverses la pièce, en silence que tu passes devant moi, je regarde tes jambes, la lumière tombant sur tes cheveux. Quand tu t'approches de moi, ton parfum me fait baisser les yeux. Et si tu touches mes mains, je m'arrange pour ne pas s'y penser. Je n'ai pas
comme toi, Stéphane Echer.
France Bleu Creuse, le dossier du jour.
La fermeture du centre d'enfouissement de Nau, nous en parlons ce matin avec les représentants d'Evolis 23, Olivia Chatonnet pour le service communication, Denis Mosset, responsable transport, tri et traitement. Vos interventions sur la fermeture de ce centre, quelque chose que vous ne comprenez pas, vous voulez une précision, c'est au 05 55 52 37 38, mais aussi sur la page Facebook de France Bleu Creuse, avec Denis Mosset pour vous tout de suite, ce commentaire d'Isabelle qui nous écrit « Bonjour, je voudrais savoir si l'on produit moins de déchets d'une année sur l'autre, la taxe peut-elle être aménagée ?» Je pense qu'elle veut parler de la taxe incitative.
Alors le constat à l'heure actuelle, c'est que c'est pas flagrant, il n'y a pas de diminution réellement du gisement de déchets collectés, que ce soit pour les ordures ménagères, enfin je parle des déchets non dangereux en l'occurrence. Mais l'objet effectivement de la mise en place de cette tarification incitative, c'est d'avoir un levier fort pour limiter la quantité de déchets ménagers dits non dangereux, en l'occurrence les ordures ménagères et les encombrants, je répète. On constate dans nos ordures ménagères qu'il y a encore 20-25% de déchets organiques qui peuvent trouver tout à fait leur place dans du compostage individuel. On constate également 20 à 25% de recyclables, donc sous forme de bouteilles, de canettes, de boîtes de conserve, de papier, de carton, qui n'ont pas leur place dans nos ordures ménagères si effectivement les consignes sur la collecte relative au tri des emballages et l'orientation vers une collecte des déchets sélectifs est réalisée. Donc on a quand même ce levier de, on va dire, à peu près la moitié du gisement d'ordures ménagères qui peut trouver un autre exutoire. Donc le but de cette tarification incitative, le mot incitatif, est fort. Donc en l'occurrence, c'est orienter ces on va qualifier de produits. Hein, certes, ils arrivent en tant que déchets, mais ils peuvent avoir une toute autre destination. C'est les orienter pour les recyclables vers le centre de tri et pour les déchets organiques vers un composteur, en l'occurrence.
D'accord. Ça peut changer la donne pour la taxe ou pas alors ?
Oui, je pense. On peut le constater déjà sur un territoire pilote au niveau de notre territoire où a été mise en place cette tarification incitative. C'est que il y a une prise de conscience qui va se faire petit à petit dans le temps. Effectivement, le fait d'instaurer cette tarification sur la levée des conteneurs, c'est-à-dire que à chaque mouvement de collecte, il va y avoir une part qui va être répercutée sur le foyer pour la prise en charge de ce traitement. Donc c'est l'objet, c'est de dire, obliger les foyers à réfléchir autrement, c'est de dire je vais détourner qui l'organique sur un mode de valorisation ou qui des recyclables que je mets quand même dans la poubelle vers l'autre collecte. Il faut savoir aussi qu'on retrouve également du verre, qui est pourtant le matériau, pionnier de la collecte sélective. Hein, depuis des décennies, le verre est mis à part, et on retrouve toujours des bouteilles de verre dans les ordures ménagères.
Tout de suite, nous allons accueillir Joël. Bonjour.
Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Bah oui, messieurs, dames, forcément, c'est vous deux. Alors moi, j'ai une question à vous poser, monsieur. Je suis tout à fait d'accord au tri. Je trouve ça génial. Alors moi, il y a 20 ans peut-être, j'avais acheté une poubelle, une grande poubelle avec un couvercle vert.
Oui.
Est-ce que je peux m'en servir ?
Pour la collecte ?
Oui, bien sûr.
Alors non.
Qu'est-ce que je fais de cette poubelle, moi, que j'ai achetée il y a 20 ans ?
C'est une très bonne question.
C'est une très bonne question.
Non, ça n'est pas possible de servir de votre poubelle personnelle pour la collecte, tout simplement parce que les bacs de collecte qui sont fournis par Evolis 23 sont pucés. Et que il ne sera pas pris à la collecte. S'il n'est pas pucé, si ça n'est pas un bac Evolis, il ne pourra pas être pris.
Oui, mais attendez, moi ce bac, je l'avais acheté à la mairie. À l'époque, et il nous a acheté ces bacs.
Ah, c'est...
Vous êtes sur quelle commune, madame ?
Salé, Julien, et toi ?
D'accord. Écoutez, la responsabilité tant du traitement et de la collecte sur le territoire d'Evolis, c'est Evolis 23.
Oui. Donc,
comme le disait Olivia tout à l'heure, les bacs, alors le terme de pucé signifie que ça nous permet d'identifier le foyer.
Oui.
Et justement d'enregistrer les mouvements au niveau de la collecte. Mais
d'accord.
Si vous voulez, mais déjà auparavant, les bacs étaient mis à dispo par Evolis 23.
Oui,
donc il y a effectivement, nous, des contraintes techniques en termes de dimension, de hauteur, de volume pour la collecte. Donc tout ce que je peux vous répondre, c'est que l'ensemble du territoire va disposer de bacs, tant les foyers que pour des points de regroupement, pour les déchets recyclables, donc ce qu'on va plutôt appeler des produits, et pour les ordures ménagères. Donc terme, vous aurez ce qu'il faut. En l'occurrence, après, votre poubelle, vous allez lui donner une deuxième vie, je pense.
Faut que je donne une deuxième
vie. Non, je sais pas.
Bon, ils sont passés ce matin, c'est bien.
Ouais, d'accord.
Oula, nous sommes en train de vous perdre, Joël. Nous sommes en train de vous perdre, la liaison téléphonique, elle est... Bouh. Merci beaucoup en tous les cas de votre intervention. Merci, oui. Merci beaucoup Joël, bonne journée à vous. Et toujours le 05 55 52 37 38 qui vous accueille, mais aussi les messages sur la page Facebook de France Bleu Creuse. Et nous avons celui de Patrick que je vous livre tel qu'il est arrivé. Je crois que pour diminuer les déchets destinés à l'enfouissement, il faudrait inciter fortement au recyclage, chose que vous venez de faire, Denis Mossé. Et bien sûr, améliorer la collecte des déchets recyclés. Je suis scandalisée de constater des containers qui restent pleins pendant plusieurs semaines, obligeant les gens à chercher d'autres lieux disponibles. Ce n'est pas avec cette politique qu'on améliorera la situation. Quant au péage individualisé, ce n'est bien que sur le principe et va à l'évidence inciter à déposer encore plus dans la nature. Et Patrick termine son message en disant « C'est typiquement une idée de bureaucrate ». Denis Mossé, un commentaire.
Donc, accentuer le recyclage, c'est effectivement à l'échelle.
C'est une des clés, quand même.
C'est une des clés. Alors, on ne la détient pas seule au niveau des Vélis. Hein. C'est un schéma national, pour ne pas dire européen en l'occurrence, mais enfin national pour tout ce qui est réglementation. Alors, il faut savoir, par exemple, que tout déchet potentiel peut avoir une seconde vie. Alors là, j'ai en tête l'ensemble des plastiques que l'on ne collecte pas encore au niveau des règles de tri à l'échelle de notre territoire, donc les films plastiques, les barquettes. Mais ils peuvent être triés, mais pour l'instant, dans l'état actuel des choses à l'échelle de notre territoire, ils n'ont pas forcément une filière de recyclage, tout simplement parce que c'est la loi de l'offre et la demande. Il y a un cours du pétrole. Certains professionnels préfèrent créer des flacons, des contenants avec un produit brut initial à base de pétrole plutôt que d'instaurer une reprise de produits recyclés qui, in fine, reviennent plus cher. Hein. Tout ça, c'est une histoire de coût de pétrole aussi pour les plastiques, en l'occurrence. Après, effectivement, les outils sont en place pour tout ce qui est acier, aluminium, papier, carton, même si le papier, actuellement, alors ça a tendance à s'améliorer, mais le coût de reprise est près de zéro, quoi. C'est-à-dire que la valeur papier est quand même très faible, mais ça, c'est à l'échelle nationale, internationale. La valeur de la matière première dicte aussi les voies de recyclage, quoi. Hélas.
Nous sommes attendus du côté du 05 55 52 37 38. Bonjour Denis.
Bonjour, voilà, j'aurais voulu une... Bonjour monsieur, dame.
Bonjour.
J'aurais voulu vous poser une petite question, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut mettre, quand on met ses déchets ménagers, est-ce qu'on peut mettre n'importe quel sac?
Alors, vous parlez au niveau de la collecte des ordures ménagères, le contenant à mettre dans le conteneur, le sac? Oui, enfin, c'est en général un sac plastique en polyéthylène ou autre. C'est ça que vous voulez dire, n'importe quel type de sac, en plastique ou tissu ou autre, c'est... Oui, plastique, oui, en l'occurrence, oui.
Oui, oui parce que, comment vous dire, moi j'ai un poêle à granuler, pour vous expliquer, moi j'ai un poêle à granuler, et puis les sacs, il faut que je les jette après.
Oui.
Alors, au lieu de les jeter comme ça vide, je pourrais les remplir.
Oui. Bah écoutez, c'est quelle matière en l'occurrence? Mais non, mais il y a pas de souci particulier. Hein. Alors effectivement, si vos sacs ont un potentiel de recyclage en fonction de leur nature, vaut mieux les mettre dans le bac recyclage. Mais en l'occurrence, je ne crois pas. Oui, vous pouvez les utiliser pour mettre vos ordures ménagères et les mettre après dans le conteneur pour pas qu'ils salissent votre conteneur. Oui, tout à fait.
Ah d'accord.
Oui.
Je savais pas. D'accord.
Ben voilà, maintenant Denis, vous avez la réponse.
Eh bien, merci bien. Merci.
Bonne journée à vous.
Merci, au revoir.
Bonjour, Jean.
Bonjour, mesdames.
Nous vous écoutons, Jean.
Bon, il y a un produit que, vous savez, les chips qu'ils mettent dans des trucs en sorte de carton métallique et tout. Qu'est-ce qu'il faut en faire, ça?
Le paquet de chips, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, les paquets
de chips. Alors. Cette matière n'est pas recyclable actuellement, donc pour l'instant, vous pouvez la mettre dans le bac ordures ménagères.
D'accord.
En espérant qu'à long terme, elle trouve un autre exutoire et puisse être valorisée, en l'occurrence.
Mais j'espère, oui.
Ouais.
Donc,
allez, une bonne journée. Merci.
Bonne journée à vous.
05 55 52 37 38.
Bonjour Dominique.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Moi, ce sera à propos du tarif, en fait. Parce que vous avez fait paraître sur le journal, pour un relevé d'un petit bac de 120 litres, c'est 3 € la levée. Donc on va dire, bon, c'est pas trop cher. Mais vous mentionnez après qu'il y a une contribution de 200 €, c'est-à-dire que c'est au moins 200 € par famille.
Oui, alors en fait c'est que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères comprend une part fixe et une part variable. La part fixe permet de prendre en charge tout ce qui est justement charge, tout ce que sont les charges du syndicat pour le traitement des déchets, donc on va dire typiquement les salaires, les véhicules, le carburant, enfin tout ce qui est charge fixe, et la part variable, la tarification incitative, on parle bien de cette part variable-là, et c'est sur cette part variable-là que vous pouvez jouer. Effectivement, c'est 3 euros par levée d'un bac de 120 litres. Donc, le but étant de minimiser au maximum c'est pas très joli, mais au maximum le nombre de levées sur une année. Et ces 3 euros viennent s'ajouter à la part fixe.
Ça veut dire que sur nos feuilles d'impôt, ce ne sera plus le tarif qu'on a actuellement, on va payer deux fois plus cher. À condition de la sortir une fois par mois, hein, je dis bien. Donc si vous la sortez deux fois par mois, c'est le double.
Non, je pense pas que vous doubliez. Alors, j'ai pas
toutes les cartes en main. Vous doublez au niveau du prix du relevé du côté nerf. Les 200 euros, pas qu'ils sont posés sur la table, il faut donner au moins 200 euros. Alors, après, s'additionne le prix de la levée du côté nerf, soit 3 euros à chaque fois qu'il y a le relevé du côté nerf.
Alors, Dominique, si vous en êtes d'accord, et que si vous en êtes d'accord, je vous propose qu'on prenne hors antenne vos coordonnées pour que les représentants des Vélis 23 puissent vous rappeler avec vraiment les tarifs, les bons tarifs sous les yeux.
Que les gens qui écoutent la radio l'entendent.
Oui, mais là, ils l'ont entendu.
C'est pas le thème du jour, en fait.
Non, mais c'est un cas particulier, donc je vais avoir du mal. J'ai pas les données en main pour pouvoir vous répondre vraiment sur votre cas. Mais je comprends bien que vous ayez besoin de votre réponse. Donc effectivement, je rejoins Josiane sur sa proposition. Le plus simple, ça serait qu'on puisse vous rappeler pour vous donner une réponse très claire sur votre interrogation.
C'est comme vous le souhaitez, Dominique.
Non, parce que je voulais que tout le monde l'entende.
D'accord.
Cette contribution de 200 euros, elle était mise d'office à tout le monde.
Alors,
j'ai pas vu sur le journal. Bon, il y a des gens qui l'ont vu et moi j'ai entendu beaucoup de personnes qui se posent des questions. C'est pour ça que je me suis permis de téléphoner ce matin.
Mais vous avez bien fait.
Je voulais que les auditeurs, que tout le monde entende, si la vérité est bien qu'il y a au moins 200 euros par famille.
Alors, il y a une part fixe. Moi, je n'ai pas les données en main pour pouvoir vous répondre plus clairement que ça. Il y a une part fixe. Je ne sais pas ce qui a été diffusé ce week-end, donc il faut que je prenne connaissance de tout ça. Il y a une part fixe et une part variable. La part fixe, je ne connais pas précisément le montant. Je vous dirai des bêtises si je vous réponds là tout de suite. Et je ne veux pas vous répondre à côté.
Bon, mais Dominique, si vous ne voulez pas laisser vos coordonnées, c'est pas un souci. Vous avez en revanche la possibilité, bien évidemment, de contacter Evolis 23, on va dire hors émission. Après, la prochaine fois, Olivia, faudra venir avec tous les tarifs. Bonjour, Philippe.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, je voulais poser une question, là.
Allez-y.
Ils ont installé, vous savez, des conteneurs, nous, là, où, à côté des balançoires, là où on est. Et je voulais savoir comment ça marchait, par exemple, si on voulait aller vider un surplus en haut, avec la carte.
Alors, Philippe est commune de Fursac.
De Fursac, oui, excusez-moi.
Mais je vous en prie.
Donc, vous voulez savoir comment marchent les contenants collectifs?
Voilà, par exemple, si bon, le nôtre, il est plein, si encore on veut les vider où ils nous ont installés, comment fallait faire pour...
Alors, vous pouvez y aller avec votre carte, la carte qui vous a été remise avec vos bacs.
Parce que, elle a été activée, non?
Ah, normalement, oui. Hein. Si vous avez le moindre souci, il faut revenir vers nos services. Mais normalement, oui, bien sûr, votre carte a été activée. Il vous suffit de la passer devant le capteur et ensuite de mettre votre sac dans le conteneur. Et la levée, puisque ça sera considéré pas comme une levée d'une poubelle complète, hein, bien entendu, sera prise en compte.
D'accord, oui. Ils les ont mis au mois de janvier, puis comme je vois pas grand monde y aller, c'est pour ça que je pensais qu'ils étaient pas en service.
Non, si, mais les gens sont encore un peu timides.
D'accord.
Les gens sont encore un peu timides.
Bon, allez,
donc
vous
merci
avez le feu vert, Philippe.
Oui, vous pouvez y aller.
Et je voulais vous poser une autre question.
Dites-le.
Vite fait. Si on va en déchetterie, comme à la souterraine ou à Bénévent, faut présenter la carte.
Alors, certaines déchetteries la demandent pour l'instant. Ça n'est pas forcément avec ça que vous pouvez rentrer. Certaines déchetteries demandent de vérifier que vous êtes bien sur le territoire. Alors, j'en profite justement pour expliquer pourquoi cette carte peut servir pour les déchetteries. Ça n'est pas, comme on l'a entendu par ailleurs, pour finalement facturer l'entrée dans les déchetteries. C'est simplement pour en limiter l'accès aux gens qui ne font pas partie du territoire d'Evolis 23. Parce qu'on avait des gens qui venaient, qui étaient hors territoire Evolis 23 et qui venaient sur les déchetteries. Et donc, ça a un coût, hein, une déchetterie. Le traitement des déchets, la gestion de la déchetterie a un coût. Et on ne souhaite pas forcément faire porter ce coût sur des gens du territoire pour des gens qui n'en font pas partie.
D'accord. Et de ce qu'on va emmener, par exemple, ça ne sera pas payé si on emmène des vieux machins à déchetterie, non ?
C'est
gratuit.
Si c'est des choses qui vont à la déchetterie, il y a absolument aucun souci, bien sûr. Non, les déchetteries, la partie déchetterie et la partie recyclable n'est pas prise en compte pour la tarification incitative. Il y a vraiment
Alors pas de dépôt d'ordures ménagères, bien sûr, dans les encombrants de la déchetterie. Ça vous sera refusé.
Je vous remercie beaucoup.
Bonne journée, Philippe. Et dans quelques secondes, la suite de vos appels à ce numéro.
05 55 52 37 38.
France Bleu.
France Musique et France 3, partenaires des 26e Victoires de la Musique Classique. Mercredi 13 février à 21h à la scène musicale à Boulogne-Billancourt, avec Lang Lang, Roberto Alagna, Alexandra Koujak, l'Orchestre National d'Île-de-France sous la direction de Julien Leroy. En direct sur France 3 et France Musique, présentation Leila Kadour-Boudadi et Judith Chen. France Musique, une radio de Radio France.
Vous entendez ? Écoutez bien, il y a des sons auxquels on ne prête plus attention. Moi, ils me rappellent ces gestes du quotidien qui, chez moi, grâce à la DMR, me rendent la vie plus douce.
Parce que les gestes qui vous aident sont les liens qui nous unissent. L'ADMR vous accompagne au quotidien, partout en France. Renseignez-vous sur admr.org.
05 55 52 37 38.
Suite de ce dossier du jour avec nos invités Denis Mossé, responsable transport, tri et traitement, Olivia Châtenay, tous les deux pour Evolis 23. Dans quelques secondes, nous allons quand même évoquer le devenir de ce centre d'enfouissement de Nau, mais tout de suite, nous allons accueillir Noël. Bonjour.
Bonjour. Voilà, je suis un bénévole à l'abbaye. Et attendez, je baisse la poste parce que...
Oui, il vaut mieux, parce que sinon mes oreilles vont pas aimer.
Voilà. Oui, c'était pour savoir pourquoi maintenant c'est ramassé tous les 15 jours les bacs, les ordures ménagères, au lieu de toutes les semaines comme auparavant. Parce que là, l'hiver encore, ça peut peut-être aller, mais l'été, quand ça va être plein, où les gens mettent des fois les sacs à côté parce que c'est plein, ça va poser problème.
Le rythme de ramassage, qui répond, Denis Mossé?
Oui, alors il a été avant toute chose recherché une optimisation pour avant tout diminuer les coûts de collecte. Hein. Toute collecte d'ordures ménagères, voire même de recyclables, fait l'objet d'un coût. Il y a du personnel, du matériel roulant qu'il faut amortir. Il y a une étude à l'échelle de tout notre territoire qui a été faite, une redistribution potentielle sur certaines zones pour justement réorienter la collecte. Donc l'objet, c'est ce qu'on appelle par exemple une collecte C05, c'est une collecte tous les 15 jours. Après la collecte 1, c'est toutes les semaines. Après, certains territoires, certaines zones ont fait l'objet effectivement d'une révision de ce principe de collecte en termes de fréquence. Alors en l'occurrence chez vous, je ne sais pas combien de... au niveau collecte, vos ordures ménagères étaient ramassées tous les combien initialement ?
Ben avant, c'était toutes les semaines.
Et là, c'est tous les 15 jours. Ouais.
Voilà.
Bon, après, c'est au regard du gisement collecté. C'est vrai qu'au niveau de notre site d'enfouissement, en l'occurrence, ou dans ce qui est transféré, il y avait des bennes qui arrivaient en fonction de la collecte. Il y avait des collectes qui étaient très longues et finalement, peu de déchets étaient collectés au regard de collectes plus courtes avec une densité plus forte à l'intérieur des bennes. Donc là, vous avez été, vous, concerné par une modification de cette collecte, mais c'est pour optimiser les coûts, tout simplement, hein, avant toute chose. Voilà.
Donc on ne remet pas pour toutes les semaines, quand même pendant l'été.
Alors après, il peut y avoir des aménagements, alors c'est pas du tout mon domaine, en l'occurrence, hein, parce que, comme le thème du jour l'annonce, c'est le centre de stockage, l'installation de stockage de Nau, là, je peux pas vous répondre, en l'occurrence, sur ce sujet-là. Quoi.
Bien.
Voilà Noël, bonne
Merci.
Journée à vous.
Au revoir.
Et avant de prendre la suite des appels, justement, ce centre d'enfouissement de Nau qui est fermé, qu'est-ce qu'il devient ?
Alors, ce centre d'enfouissement, il va, la surveillance va durer de toute façon. En fait, on maintient le même rythme et la même attention au suivi technique de cette installation que pendant son exploitation. Donc, il va y avoir, par tranche de 10, voire 5 ans, un focus qui va être fait par une étude qui va être mise à la préfecture, qui permettra justement de voir que tout ce suivi qu'on va mener pendant 10, 15, voire 20 ans sur cette installation met en évidence une stabilisation globale de la vie, hein, en l'occurrence, parce que tous ces déchets qui ont été enfouis donc sont composés de matières organiques. Et ce qui est la vie d'un centre de stockage, c'est effectivement qu'il y a une dégradation de cette matière organique qui génère du gaz en l'occurrence, hein, qui doit être brûlé pour éviter de jouer sur son effet de serre, qui génère des eaux qu'on appelle des lixivias qui peuvent être chargées en matière organique et autres, qui doivent subir un traitement pour être jetées dans le milieu extérieur. Donc tout ça est maintenu, la cadence de contrôle de la qualité des eaux, de la qualité de l'air sera effective sur ce site pendant les 20-30 prochaines années. Après, au niveau de la couverture, là actuellement on a un enherbement, donc on a une étanchéité qui est posée avec une couverture de terre puis un reverdissement. Il y a un projet qui est actuellement à l'étude, en l'occurrence c'est la mise en place de panneaux photovoltaïques pour utiliser cette surface qui fait environ 12 hectares pour produire de l'électricité. Donc ça, il y a une étude de faisabilité qui va probablement être menée pour voir effectivement si ce site est apte à porter ce genre d'installation.
Bon, vous êtes très très demandé. Je ne pense pas qu'on va pouvoir prendre tout le monde ce matin. Bonjour Anne-Marie.
Oui, moi j'ai une question à poser pour les bacs collectifs. À chaque fois qu'on ouvre, même si on met qu'un tout petit paquet, ça compte les 30 litres quand même?
Ah oui, oui. Tout comme votre bac individuel, qu'il soit de 80 litres ou de 120 litres, c'est bien la levée qui compte, hein. C'est pas le poids.
Voilà.
Donc, vous me permettez de prendre l'occasion de d'expliquer à nos auditeurs que quand ils ont un bac de 80 litres, par exemple, l'intérêt n'est pas de le mettre à chaque collecte. S'il est à moitié plein, il vaut mieux attendre la collecte.
La collecte suivante.
D'accord.
Voilà, Anne-Marie.
C'est ça que je voulais savoir. Merci. Merci.
Bonne journée. Bonjour, Yolande.
Oui, bonjour à tous. Je voulais rebondir sur la question de tarif que la dame a posée précédemment. Alors, j'ai fait des calculs. Enfin, il s'agit de la maison de ma mère. Elle a payé 101 euros de relevé d'ordures ménagères l'année dernière. Alors, si je me réfère à l'article qui était dans la montagne, qui est intitulé « Année blanche pour la taxe incitative », bon, il y a un calcul. Alors, on nous dit que normalement, avec cette taxe incitative, il y aura une baisse de tarif de 20%. Donc, moi, j'ai fait le calcul. Bon, sur 100 euros, 20%, ça fait 20 euros de baisse, ce qui revient normalement à une base de 80 euros. Et là, on nous parle, et on nous donne un exemple. On parle de 10 relevés dans l'année. Mais bon, 10 relevés dans l'année, je pense que c'est très peu fréquent. Là, si je compte 52 semaines dans l'année, ça fait 26 relevés, c'est-à-dire 78 euros. Si j'ajoute 80 plus 78, ça fait 158 pour l'année, alors qu'elle paye à l'heure actuelle 101. Alors quand on parle de baisse de 20%, si on ajoute le prix de la levée par bac, c'est-à-dire 3 euros, c'est plus du tout le même tarif. Alors est-ce que je n'ai pas compris? Est-ce que l'article est mal expliqué? J'aimerais bien avoir un petit éclaircissement si c'est possible, monsieur.
Alors, monsieur ou madame, je ne sais pas lequel des deux.
Non, mais là, vous partez sur le principe que votre maman va avoir ses bacs qui vont être collectés tous les 15 jours. C'est très peu probable, en fait, hein, parce que À titre personnel, moi par exemple, pour un bac de 120 litres avec trois personnes qui produisent des déchets, là j'en suis déjà à 2 mois sans avoir encore fait collecter mon bac. Donc le calcul est peut-être un peu faussé en fait. Hein. Vous partez du principe que chaque collecte, vous allez mettre votre bac, ça n'est pas forcément vrai. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut bien mettre vos bacs à la collecte uniquement quand ils sont pleins. Pas quand ils sont à moitié pleins, puisque c'est la levée qui va être prise en compte et pas le poids du bac.
En revanche, Olivia, il faudra vraiment qu'on revienne un jour sur ces histoires de ramassage de bac. Merci beaucoup Yolande de votre intervention. Un tout dernier appel pour ce matin, vraiment le tout dernier. Bonjour Janine.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, alors c'est personnel. On a 2 portails. On n'a pas été déterminé à quel portail on devait mettre la poubelle.
Alors, j'aurais tendance à dire comme ça, mettez-le devant l'un des deux et les agents de collecte rectifieront s'il y a besoin. C'est-à-dire que eux vont vous replacer ou pas d'ailleurs, hein, peut-être votre bac ailleurs. Vous tiendrez bien compte de l'emplacement qu'ils ont choisi pour vous. C'est celui qui convient le mieux. Et puis voilà, hein, sur les prochaines tournées, il vous suffit de le remettre au même endroit.
Eh bien, merci beaucoup.
Bonne journée, Janine. Et malheureusement, nous n'avons vraiment plus le temps de prendre d'autres appels pour ce matin. Denis Mossé, à retenir pour ce centre d'enfouissement de Nau, que d'abord, il vit pas sa vie tout seul. Il est surveillé, contrôlé régulièrement.
Tout à fait, les équipes en place techniques pour le suivi, pour le contrôle, notamment du niveau des eaux, est maintenu. L'avantage que l'on a également sur ce site de Nau, hein, qui est aux Grandes Fougères, c'est que tout le siège est présent sur place, on a nos activités.
Il y a toujours une présence.
Il y a toujours une présence technique, humaine. C'est un site, je vous l'ai dit, le centre de stockage fait 12 hectares, mais le site en lui-même est bien plus important. On a notre centre de tri qui est également sur place, les bâtiments administratifs, le parking, toutes les bennes de collecte, donc... Si ça peut apporter une garantie supplémentaire pour les gens qui s'inquiètent effectivement de l'avenir de ce site, ça doit les rassurer. Nous sommes présents et nous serons présents pour les dizaines d'années à venir.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc encore une fois, je vous le rappelle, nous ne pouvons plus donner suite à votre appel pour ce matin. Nous arrivons vraiment au bout de ce dossier. Mais je vous rassure, Evolis 23 sera bientôt de retour.
France Bleu Creuse, le dossier du jour, Josiane Perron.
Demain, jusqu'à présent, les choses étaient plutôt simples. Un salarié qui liquidait ses droits à la retraite de base à taux plein bénéficiait en parallèle et à 100% d'une pension de retraite complémentaire, ARCO et éventuellement AGIRC. C'est du passé. Il est très important de poser vos questions demain matin à nos invités pour savoir où nous allons en matière de retraite complémentaire. Toutes vos questions à partir de 9h.